Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
J'avais déjà envoyé mes dossiers. Je me disais, moi, ma vocation, ma vie, c'est d'être psychologue. Je veux être psychologue. Je me sentais toute jeune et je me sentais pas légitime parce qu'il y a un gros bonhomme d'un certain âge, il devait avoir 53 ans, il est arrivé devant moi. Et je me suis dit, quelle crédibilité j'ai de l'aider en fait. Et ce qui est magnifique et magique, c'est quand je quitte le cabinet et que je vois toutes ces enveloppes corporelles autour de moi, je me dis, c'est une leçon de vie énorme. Si les gens seulement les gens savaient, on se permettrait plus de poser ne serait-ce qu'un jugement sur autrui.
Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte.
Mehdi 1, Karima, Job Story.
Mon invitée aujourd'hui, c'est Sonia Aghemi, elle est psychologue clinicienne et psychothérapeute pour enfants, adolescents et adultes. Plus qu'un métier, une vocation et une volonté d'aider et d'accompagner. Sonia Aghemi, bonjour, ravie de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui.
Bonjour Karima, merci beaucoup de me recevoir.
Tout le plaisir est pour moi. Sonia, alors avant de détailler peut-être un petit peu plus votre carrière, votre parcours, est-ce que le métier que vous exercez actuellement, c'était un rêve d'enfant ou est-ce que c'est venu par pur hasard ou au fur et à mesure des années?
Alors en fait, c'est vraiment une vraie passion pour le coup. Mmh. J'ai moi-même été accompagnée pendant très longtemps durant mon enfance par une psychologue. Et à l'instant où je suis rentrée à son cabinet, je me suis dit, mon Dieu, je comprenais pas encore le métier. Et je me disais déjà, je pense que c'est ce que j'aimerais être elle pour quelqu'un. C'est ce que je veux. Réellement, c'est ce que je veux. Donc ça c'est quelque chose qui est en moi, je pense, depuis toujours.
Donc c'était limite une évidence, en quelque sorte.
Ben, réellement, ça l'était. Parce que mon accompagnement a tellement été bénéfique, m'a tellement changé la vie. Au final, en grandissant, j'ai étudié dans cette direction. Je n'ai jamais envisagé de faire quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire que même quand j'étais au lycée et que mes amis et mes camarades remplissaient les différents choix, les options, les écoles, tout ce qui est post-bac, etc., ouais. j'avais déjà envoyé mes dossiers. Je me disais, moi, ma vocation, ma vie, c'est d'être psychologue. Je veux être psychologue.
À quel moment vous décidez justement de prendre les choses en main, de vous orienter vers cette carrière en faisant des études notamment, etc.
Et quelle époque? Je pense que depuis toujours, ça a été évident. Donc, ce qui fait que, heureusement, j'ai toujours eu le soutien de ma famille, ce qui fait que je leur demandais qu'est-ce qu'il faut faire un petit peu, vers où est-ce qu'il faut que je me dirige, etc. Quel type de notes il faut que j'ai. Je suis le genre à travailler plus intelligemment que trop fort. Donc, je me suis dit, OK, alors c'est quoi qu'il faut que je donne? Qu'est-ce qu'il faut que... Et franchement, ça s'est fait tout naturellement. Et puis, je me suis rendu compte, je pense, en seconde et en première, que voilà, fallait envoyer ses dossiers, fallait être bon en ci, en ça. Et puis, d'où là, j'avais des capacités pour. Donc, ce qui fait que ça s'est fait tout naturellement. Et je me suis retrouvée en psychologie à étudier ce que je voulais. Et c'est ça, au final.
Bah, c'est excellent. Et justement, la phase études, peut-être qu'il y a des étudiants qui nous écoutent actuellement ou des personnes qui aimeraient justement s'orienter vers la psychologie, mais qui ont un petit peu peur parce qu'on sait que c'est des parcours difficiles quand même. C'est pas un jeu d'enfant, c'est pas une partie de plaisir. Il faut vraiment le vouloir. C'est pas juste pour le titre, etc. Ça demande de l'effort, de la niaque, de la passion, bien évidemment. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes, vu qu'on en parle actuellement, peut-être les plus jeunes?
En fait, je me dis, il faut pas voir la partie de l'iceberg qui sort. Je ne sais pas si c'est exactement ça qu'on dit, mais en fait, faut pas avoir l'impression que c'est un métier où on va être directement dans le contact humain, où on va être dans l'explication, parce que généralement, parfois, on a des traumatismes, on se dit, j'aimerais bien m'auto-comprendre, m'auto-traiter, comprendre autrui, mes amis, ma famille, etc. Et ça vient pas directement. Au contraire, il y a énormément de théories, il y a un travail en amont qui est énorme. On est beaucoup dans la théorie, l'histoire, la philosophie, la compréhension de soi, de l'être humain, etc. Et puis, au départ, on se dit, oups, est-ce que c'est vraiment ça? Non, je ne pensais pas que c'était ça, la psychologie. Non. C'est tout à fait ça. Il faut passer
surprise
par là. Surprise, exactement. Donc, il ne faut pas, faut pas se décourager.
Ouais.
Et c'est un métier qui se fait par passion, de toute façon.
Ouais.
Il y a une sélection naturelle qui se fait parce que derrière le savoir et l'apprentissage, il y a un savoir-être.
Mmh.
Et c'est une sélection qui se fait naturellement dès les premières années. Moi, j'ai eu beaucoup de camarades qui ont quitté le navire, qui se sont dit, en fait, ben non, c'est pas du tout fait pour moi. Je pensais, mais c'est pas le cas. Faut se faire confiance et faut s'écouter parce que c'est pas un métier qu'on peut s'obliger à faire. Sa pratique peut devenir très vite difficile si on n'a pas les épaules solides. Donc, faut suivre son instinct, je pense aussi. Faut pas s'infliger un métier, quoi.
C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et surtout quand il s'agit de métiers comme ça, donc en médecine, psychologie, et même l'architecture, l'ingénierie, etc., il y a des gens qui le font des fois, malheureusement, pour le statut. Et ça, c'est pas, je pense que ce n'est pas vraiment l'objectif à avoir justement en tête. Parce que voilà, quand il s'agit surtout de médecine, de psychologie, d'accompagnement, etc., il faut vraiment le vouloir. Et comme vous l'avez si bien dit, avoir aussi les épaules solides. Parce que ce n'est pas évident d'accompagner des gens qui sont peut-être en détresse, qui ont besoin d'aide, etc., d'écouter leurs histoires, d'essayer de faire la séparation entre ce qu'ils vous racontent et ce que vous êtes. Je pense qu'il y a plein de choses à prendre en considération avant de vous lancer. Ou en tout cas, ce n'était pas les questionnements à avoir à travers votre histoire, d'ailleurs, vu que c'était une évidence, un rêve d'enfant aussi.
Exactement, ça l'était, oui. Honnêtement, c'est magique que de pouvoir avoir accès à ça. Si, je me demande souvent qu'est-ce que je serais en train de faire si je n'avais pas moi-même été amenée à avoir une psychologue, à avoir un traitement, à bénéficier. En fait, c'est une chance que de pouvoir bénéficier d'une thérapie, qu'on t'emmène consciemment chez un psychologue et qu'on te dit, écoute, ce n'est pas parce que tu as un problème, ce n'est pas parce que tu es folle, c'est pourquoi pas avoir un adulte qui puisse te guider, qui puisse être semblable à une sorte d'ami, que tu puisses avoir un accompagnement qui soit différent du jugement qu'on se fait des opinions de notre famille et de nos amis.
C'est vrai.
Et c'est d'une richesse incomparable, honnêtement. Et c'est pour ça que c'était évident. Et je pense aussi que c'est aussi grâce à ma psychologue de l'époque, parce que si elle ne m'avait pas donné si elle ne m'avait pas fourni peut-être ce support... Ou peut-être que si l'accompagnement n'avait pas été bon, peut-être que je me serais faite une opinion complètement différente de la psycho. Mais j'ai l'impression qu'au final, c'est le destin qui fait bien les choses, si on peut dire ça aussi comme ça.
Bien sûr, le destin fait bien les choses, effectivement. J'allais justement vous poser la question, si c'était une expérience, voilà, une mauvaise expérience, est-ce que vous aviez un plan B? Inconsciemment
là,
ou consciemment, d'ailleurs?
Alors, ni consciemment, ni inconsciemment,
d'accord.
Parce que je me souviens déjà au lycée, on me disait, ben, remplis quand même autre chose. Enfin, t'as d'autres qualités, tu vas pas, t'imagines, tu t'aimes pas la première année, t'as rien en backup, tu peux rien faire. Et je m'obstinais à dire, écoute, c'est comme ça, je le sens, on verra plus tard. Je sais pas si c'est de l'impulsivité ou si ça, je sais pas, honnêtement, mais pas de plan B.
Bah écoutez, tant que ça a marché, c'est excellent, hein, on ne se pose même pas la question. C'était impulsif ou pas, voilà, c'est pas grave. De toutes les façons, ça a marché. Donc voilà, on tourne la page.
Exactement.
Et vous, donc, vous avez fait des études, ça a pris le temps que ça a pris. Et si je vous demande de partager avec nous votre toute première consultation, entre guillemets, est-ce que vous en gardez un bon souvenir, première expérience pro en tant que psychologue?
Waouh, ben c'est pas quelque chose qui s'oublie à mon avis.
J'imagine.
Généralement, oui, si on l'oublie, c'est peut-être que ça s'est mal passé et que c'est du déni et du refoulement. Honnêtement, alhamdoulilah, ça s'est tellement bien passé parce que je pense que j'ai été encadrée aussi de la meilleure manière. J'ai été bien entourée, j'ai fait, je pense, en fait, c'était ma première expérience, c'était durant un stage, c'était pas en cabinet. Et je me souviens. Ma gérante de stage m'a dit, tu sais quoi, je te fais confiance et il faut que tu te fasses confiance. Et pour créer ce déclic, ce patient, c'est pas le mien, c'est le tien. Il vient te voir, assieds-toi à ma place et moi, je pars. Je me suis dit, oh mon Dieu.
Je stresse. Là, vous êtes en train d'en parler, de le raconter. Ça m'a donné un petit coup de stress.
C'était effectivement stressant. Et je me suis dit, mon Dieu, j'étais extrêmement intimidée. Surtout que je me sentais toute petite. Je me sentais toute jeune et je me sentais pas légitime parce qu'il y a un gros bonhomme d'un certain âge, il devait avoir 53 ans, il est arrivé devant moi. Et je me suis dit, quelle crédibilité j'ai de l'aider, en fait. Non, je n'ai pas son savoir, je n'ai pas son vécu, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas... J'ai... Et pourtant, en fait, non, il m'a fait confiance dû à mon statut. Il s'est assis de manière tellement humble face à moi. Il s'est mis à nu. En fait, c'est un déclic. C'est un moment qui est magique parce que quand il sort, tu te dis, mon Dieu, on me fait confiance. C'est une chance, en fait. C'était le déclic. Et c'est ce qui fait qu'au final, quand j'ai ouvert mon cabinet et que j'ai commencé à travailler, je me suis dit, je pense que je n'ai pas eu peur, je n'ai pas vécu ce syndrome de l'imposteur parce que je me suis dit, ok, c'est faisable, c'est bon, je peux y aller.
Bien sûr, bien sûr. C'est juste, des fois, c'est vrai que l'âge, ça peut faire un petit blocage. D'ailleurs, tout métier confondu, hein, même quand on donne une responsabilité dans une entreprise à quelqu'un de jeune par rapport aux autres collègues, il y a toujours cette sensation de ne pas être à la hauteur, de ne pas être à sa place ou de ne pas être légitime. C'est dommage parce que l'âge, voilà, c'est l'âge, quoi. C'est pas...
Exact. Mais ça ne veut rien dire parce qu'il y a des gens qui ont entrepris leurs études en même temps que moi à 40 ans ou à 50 ans, et ce qui fait qu'ils ont à peu près le même background que moi, et pourtant ils ont plus de légitimité parce qu'ils sont, ils sont âgés, et ça ne veut rien dire. Honnêtement, ça ne veut rien dire parce que notre vécu et la manière dont nous on voit les choses, ça ne dépend pas de notre âge. Et je pense que c'est la chance que moi j'ai eue, c'est ce qu'on m'a montré et c'est ce qu'on m'a dit en me faisant confiance. Et ce qui fait qu'au début, même ma famille et mes amis me disaient, mais je pense que tu vas avoir que des enfants au départ parce que je vois pas des adultes venir chez toi. Et au contraire, en majorité, ce sont des adultes. Et je pense que c'est quelque chose qu'on dégage, et ton expertise, au final, personne ne te l'enlève.
Bien sûr que non, bien sûr, bien sûr. Et Sonia, les enfants, justement, est-ce que c'est différent des adultes ?
C'est complètement différent. Ça n'a absolument rien à voir. C'est un univers à part entière, c'est une approche à part entière, c'est une énergie qui est complètement différente. Ça demande énormément d'énergie et de finesse. C'est pas une discussion comme on pourrait avoir une adulte qui est fluide. Donc ce qui fait qu'il faut passer par différents chemins, induire la parole. On utilise énormément d'outils avec les enfants parce que tu peux pas lui dire bah, raconte-moi qu'est-ce qui se passe à la maison. Et il va pas te dire oui, papa frappe maman. Si tu lui donnes par exemple des petites figurines ou des animaux, rapidement il te montre ah ça c'est le roi de la jungle. Généralement c'est papa à la maison et puis comment tu lui à prendre le lion et à frapper les animaux autour. Et c'est comme ça que tu découvres l'univers de l'enfant. Ça demande énormément d'énergie et de finesse. Et c'est un travail supplémentaire parce que quand tu traites l'enfant, tu traites l'adulte parce que tu as les parents derrière qui sont là, qui ont besoin d'un support émotionnel, qui ont besoin de comprendre, qui ont besoin de... Tu travailles avec eux parce qu'il y a des fois, c'est pas... la problématique ne vient pas de l'enfant en lui-même, mais vient de son environnement le plus proche. Et ce qui fait que c'est un double travail. Il faut faire de la psychoéducation, il faut se poser avec les parents, les sensibiliser, leur expliquer. Et c'est pas toujours facile, c'est très difficile que les parents acceptent, qu'on leur dise parfois, écoute, ça marche pas, ça vient pas de lui, ça vient de toi, il va falloir faire un effort. Donc on marche aussi sur les œufs. Et t'as pas envie de les faire culpabiliser. Au final, tu as juste envie que ça se passe mieux. Et c'est pas évident.
Moi, j'imagine, c'est pas du tout évident. Est-ce que vous remarquez que c'est toujours tabou? Vous avez remarqué une évolution dans ce sens? Que ça devient un petit peu plus acceptable, entre guillemets?
En fait, si, il y a une évolution, heureusement. Heureusement qu'il y a une évolution. En fait, rien qu'à l'époque où moi je voyais un psychologue, y a des membres de ma famille qui ne comprenaient pas nécessairement et qui disaient à mes parents ou à ma mère, écoute, pourquoi tu l'emmènes? Tu vas lui coller une étiquette, elle est bien, nous on l'écoute, pourquoi elle devrait nous parler à nous? Des choses comme ça, enfin... ça a énormément évolué, bien Excellent. Qu'il y ait encore des zones d'ombre, mais on ne se plaint pas nécessairement. À un moment, ça a été aussi un petit phénomène de mode, plus dans, c'est plus associé au bien-être, c'est plus associé. Et ce n'est pas si mal parce que là, au contraire, c'est beaucoup moins tabou. Malheureusement, c'est toujours le cas pour les psychiatres. Je me permets d'en parler rapidement parce que vu qu'il y a une prise médicamenteuse derrière, il y a un stigma qui vient avec. Or, avec le psychologue, on se dit « Non, écoute, c'est pour le bien-être, on n'est pas obligé d'avoir un problème, c'est vraiment pour dépoussiérer un petit peu, se comprendre, traverser des... » Et je trouve que c'est bien, petit à petit, petit à petit.
Bien sûr, c'est une bonne chose. Et aussi, c'est important de souligner que c'est pas... Et quand on a besoin d'aide, il faut demander de l'aide, il ne faut pas hésiter. Que ce soit un psychologue, un psychiatre, il n'y a pas de mal. Ça ne fait pas de vous des personnes bizarres ou folles, pas du tout. Au contraire, ça
pas
demande beaucoup de courage de demander de l'aide. Et voilà, que ce soit au niveau d'un psychologue ou un psychiatre, peu importe. Voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en ressentez le besoin.
Il ne faut pas hésiter, au contraire, c'est un symbole de force et de courage que c'est de pouvoir se dire, à ce moment-là, j'ai besoin d'aide pour me ressourcer, et pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir... Enfin, c'est pas une honte, et la majorité des gens qui font le premier pas, parce que généralement c'est le plus difficile, ne le regrettent pas, et honnêtement, il n'y a pas... On doit déconstruire cette stigmatisation et les tabous qu'il y a autour, et les stéréotypes qu'il y a autour.
Je suis d'accord, c'est hyper important.
Il faut donner la chance, oui.
C'est hyper important justement de sensibiliser aussi les gens le plus souvent possible par rapport à, par rapport à ça. Sonia, on en a parlé il y a un tout petit moment brièvement, l'impact que peut avoir justement ce métier sur la sphère personnelle. Est-ce que ça a été le cas pour vous ou est-ce que vous avez vite trouvé un certain équilibre? Ne pas vous laisser imprégner peut-être par les histoires que vous entendez, les problématiques que vous essayez de résoudre, etc. Est-ce que ça a été facile ou difficile ou les deux ou, comment ça s'est passé?
Je pense que ça dépend. En tout cas, pour ma part, on peut pas. Il y a des choses qui nous transpercent. Il y a des histoires, il y a des souffrances, peut-être qui nous reflètent, qui nous renvoient à nous-mêmes, je dirais. Ouais. Après, c'est là qu'il faut savoir peut-être éventuellement se retirer. Et honnêtement, j'ai rapidement su faire la part des choses.
Excellent.
J'ai rapidement su mettre une certaine distance. Pour rester objective et ne pas juste absorber et rentrer chez moi avec toutes les histoires et les énergies et les ondes, mais on reste humain. Ouais. Et parfois, il y a des choses qui sont extrêmement percutantes. Mmh. Il faut savoir, moi je le dis parce que ça aussi c'est une force, il faut savoir référer. Il faut savoir référer pour ne pas souffrir et faire souffrir. Il faut savoir se dire ça me renvoie trop à quelque chose qui me touche, qui me percute. Je vais rentrer dans de la subjectivité. Donc, écoute, je réfère. On a des collègues, on leur fait confiance. On n'est pas en compétition. Au contraire, c'est complémentaire. Il y a assez de monde et assez de psychologues. Et puis, il faut pouvoir le faire. Ça, c'est quelque chose vraiment sur lequel j'avais envie de mettre. Un point d'honneur, mais à part ça, pour le reste, honnêtement, la majorité du temps, non. Le travail reste au travail. Oui, c'est important parce que sinon, c'est pas viable sur le long terme. Et puis, on a nos problèmes. Et si on doit rentrer avec, parce que c'est ce qu'on entend, c'est parfois très, très, très difficile. Mais au contraire, on est là dans un élan de partage. Et parfois, la souffrance se transforme en reconnaissance, je dirais. Parfois, le fait d'être dans une zone et dans une bulle de confiance et que les gens viennent chez toi pour partager cette douleur et cette souffrance avec toi. Ça se transforme en reconnaissance, honnêtement. On sort et on se dit, je suis extrêmement... j'ai envie de répéter reconnaissant. Tu sors et tu te dis, waouh, alhamdoulilah, c'est très gratifiant comme travail. C'est très gratifiant. À la fin de la journée, on est très fiers.
C'est très noble aussi, c'est très noble parce que vouer sa vie ou sa carrière à aider les autres, franchement, c'est très très noble.
Oui.
Si je vous demandais cette fois de choisir la chose que vous aimez le plus dans ce que vous faites et celle que vous aimez le moins.
Je m'étais jamais posé la question, ce que j'aime le plus, la vérité je pense que ce que j'aime le plus c'est le partage. C'est de voir tout type de personnes, de tout milieu confondu, tout âge, et de me dire c'est une surprise parce que je vois une enveloppe corporelle entrer et on ne s'imagine pas une seconde qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ce qui est magnifique et magique, c'est quand je quitte le cabinet et que je vois toutes ces enveloppes corporelles autour de moi, je me dis c'est une leçon de vie énorme. Si seulement les gens savaient, on ne se permettrait plus de poser ne serait-ce qu'un jugement sur autrui si on pouvait imaginer ce qui se passait derrière. Et on en sort grandi, je sors et je me dis, tu vois cette personne que n'importe qui aurait pu juger et étiqueter de ci ou ça, waouh, s'il pouvait savoir ce qu'il y avait derrière, on ne se permet plus, c'est un apprentissage, j'apprends, je grandis tous les jours en fait. Et c'est ça, je pense, qui me fascinera toujours.
C'est pour ça que c'est important de ne pas, très important de ne pas justement, comme vous l'avez dit, juger les gens. On dit qu'il faut toujours essayer de prendre la distance parce qu'on ne sait pas par quoi la personne en face est en train de passer ou ce qu'elle subit. Donc c'est pour ça qu'il faut rester un petit peu indulgent et empathique.
Mais oui, mais surtout que nos réactions avec les autres en révèlent plus sur nous que sur eux.
Tout à fait.
c'est ça, quand on est face à quelqu'un qui a une certaine réaction, on le prend personnellement, mais ça en dit plus sur lui, au final.
Est-ce que vous aimez le moins, sur une note moins positive?
J'y ai jamais pensé.
On n'est pas obligé d'avoir quelque chose qu'on n'aime pas. Voilà, c'est... Des fois, ça nous permet de nous poser cette question, de nous dire, voilà, j'aime ce que je fais, mais est-ce qu'il y a quelque chose que j'aime pas?
Non, en fait, je pense qu'on va dire que pour l'instant, il n'y a encore rien que j'ai pu rencontrer de mon métier qui m'a déplu. Et puis, on verra ce que l'avenir nous réserve. Je suis sûre qu'il y aura des choses peut-être qui vont venir avec le temps, mais on verra. En tout cas, là, pour l'instant...
Vous m'enverrez un petit message, donc, une fois que...
Avec plaisir.
Un petit message avec, voilà, en 2027. Voilà ce que j'aime pas. Et Sonia Ghemi, cette fois, donc on a commencé par un petit flashback notre discussion. Cette fois, voilà, si je devais plutôt vous souhaiter quelque chose pour l'avenir, ça serait quoi? Est-ce que vous avez un rêve, un objectif que vous souhaitez atteindre à court, moyen ou long terme d'ailleurs?
Honnêtement, tu aurais beaucoup de choses à me souhaiter.
Une liste.
Honnêtement, on n'en a jamais assez, peut-être que par gourmandise, je sais qu'il y a une quantité limitée de gens que je puisse rencontrer, voir et aider, si je puis dire. Et en fait, c'est de pouvoir aider à grande échelle, c'est de pouvoir... je me suis rendu compte que faire de la psycho, c'était aussi faire de la socio. En fait, c'est de pouvoir aider à grande échelle, pouvoir changer les mentalités profondément, c'est pouvoir... aller à la racine des choses. Ce que je dis souvent, c'est qu'il faut aller traiter vraiment le fond de la maladie et non pas juste traiter les symptômes. C'est pouvoir vraiment pouvoir aider à grande échelle, honnêtement. J'ai plein de projets en tête. Justement, dernièrement, j'ai commencé à parler d'un mouvement sur l'impact des papas marocains sur la santé mentale de leurs enfants et de leurs familles, pour ne pas justement recevoir des gens qui sont cassés et traumatisés et commencer à se dire « notre société fonctionne d'une certaine manière, elle pourrait aller mieux et pourquoi pas faire un travail là-dessus aussi, de sorte à finalement, c'est marrant parce que mes collègues me disaient, bah, du coup, tu nous veux moins de patients. J'avais envie de leur dire, oui, c'est pas grave.
Mais il y a toujours, voilà, il y aura toujours autre chose. C'est ce que j'allais dire. Il y a toujours autre chose. C'est tellement vaste que, voilà, il y aura toujours autre chose.
C'est ça, je pense qu'il faut me souhaiter du courage. Je pense du courage. Mais justement, pour pouvoir aider à grande échelle, pour persévérer, pour dire ce qu'on a du mal à dire, pour briser les tabous, pour briser les cercles vicieux, pour plusieurs choses.
Et ben c'est tout ce qu'on vous souhaite, Sonia Ghemi. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui, d'avoir partagé votre parcours. C'était vraiment un plaisir de papoter.
Plaisir partagé, vraiment. Merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas.
C'était un plaisir, Sonia, et bon courage et beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah.
Merci beaucoup, Inch'Allah.
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.